Comme vous le savez, donc sinon je vous l'apprends ce soir, la Maison Verte s'est lancée dans un grand chantier encore. Hein. Celui de ses fondations. Elle est invitée, nous sommes invités à construire, reconstruire, trouver, retrouver son projet. Et derrière ce mot de projet qui évoque l'avenir, la Maison Verte, plutôt devrais-je dire les amis de la Maison Verte, dont vous faites tous et toutes partie, que vous soyez ou non officiellement adhérents d'ailleurs, vous, moi, nous tous, nous cherchons à savoir au sein de cette maison qui nous sommes, ce qui nous définit, ce qui nous motive, ce qui nous rassemble dans cette grande petite maison qui est la nôtre, comme elle est celle de tous celles et tous ceux qui voudront bien y venir ou qui n'y feront peut-être que passer un jour. Bref, nous cherchons à définir notre identité. Voilà, le mot est dit. Celle de cette maison, oserais-je dire, son âme comme son esprit. La Maison Verte est une fraternité des missions populaires évangéliques, ça vous le savez tous et toutes. Les mots de mission et d'évangélique encadrant celui de populaire, qu'est-ce que cela veut dire réellement? Il est parfois sage de comprendre d'où l'on vient pour savoir qui l'on est et pour mieux aller de l'avant ensuite. C'est ce que nous avons souhaité faire donc, au sein du Conseil, en mettant en place une série de conférences-débats qui auront lieu tout au long de l'année scolaire et dont le premier a lieu ce soir, avec vous-même justement, Monsieur Laurent Gagnebin, qui nous avait fait le plaisir et l'honneur d'accepter l'invitation de notre pasteur et directeur Stéphane Lavigneux. Donc, je vais peut-être vous essayer de vous présenter en quelques mots. Vous me corrigez si je dis une bêtise. Vous êtes ancien doyen, c'est ça, de l'Institut de théologie de Paris. Vous avez été pasteur, c'est ça, pendant une vingtaine d'années à Paris, vous m'avez dit. Et vous êtes aujourd'hui directeur de la rédaction également de la revue Évangile et Liberté.
Voilà.
Voilà, on a fait. Certainement, il y a beaucoup d'autres choses, mais déjà...
Toujours président du christianisme social en Somalie.
Un christianisme social dont je suis le président, qui n'a aucun membre. Mais je laisse la réalité du christianisme social, parce que c'est bien qu'on sache que ça existe quand même. On ne sait jamais, peut-être dans 50 ans, il y aura 5000 personnes. Il y a des choses comme ça, des flux et des reflux, hein, pour beaucoup de questions. On ne peut pas savoir.
Alors justement, puisqu'on parle de christianisme social, les missions populaires évangéliques s'inscrivent donc à l'origine dans l'esprit du christianisme social. Et puis on s'est demandé effectivement qu'est-ce que c'était effectivement ce christianisme social dont on parle beaucoup. On a tous plus ou moins une vague idée, mais finalement dont on est un petit peu embêté lorsqu'il s'agit de le définir précisément. Donc, avec toute humilité, avec beaucoup d'espoir, Monsieur Gagnebin, nous comptons sur vous pour nous éclairer.
Très volontiers.
Alors si vous êtes toujours d'accord, vous allez nous parler du dialogue entre athées et croyants à la fin du 19e siècle avec l'exemple de Wilfried Bono qui était donc un pionnier du christianisme social.
Voilà.
Sur ce, je me tais et vous écoute.
Merci. Alors c'est vrai, j'ai prévu trois étapes hein, d'inégale longueur, si ce n'est importance. Une où j'essaye de présenter Wilfried Bono. Une deuxième étape qui est un peu un trait d'union où j'essaierai de donner quelques touches concernant la toile de fond sur laquelle vit ce dialogue entre athées et croyants. Il y a des choses qu'il faut remettre dans notre tête qui sont assez surprenantes. Et puis troisièmement, comment Wilfried Bono engage ce dialogue athéiste, christianiste, christianisme, athéisme à travers un livre plus particulièrement, qui s'appelle « Aux croyants et aux athées », qui a connu plusieurs dizaines d'éditions et un succès considérable à l'époque où il a été publié. C'est peut-être un des rares livres de Wilfried Bono qu'on pourrait republier aujourd'hui, s'il fallait le faire. Alors, Wilfried Bono. Wilfried Bono est né en... Il s'est donc marié avec sa cousine Germaine, ça donne des génies ou des gens marqués... Douloureusement, un de ses fils, c'est donc Théodore Monod. Théodore Monod, le fameux Théodore, l'homme du Sahara, etc., c'est un fils de Wilfried Monod. Alors, il a été dans trois paroisses, pasteur. La première paroisse, c'est Condé-sur-Noireau, vous connaissez peut-être, et je précise dans le Calvados. Pourquoi je précise ça? Parce que c'est une région profondément abîmée par l'alcoolisme. Et il découvre pour la première fois de sa vie, parce qu'il a eu une existence assez protégée et bourgeoise à Paris, il découvre pour la première fois de sa vie le drame de la misère et des questions sociales. Et c'est pendant qu'il est pasteur à Condé-sur-Noireau qu'il vit ce drame social et plus particulièrement, s'engage dans une grève où il joue un rôle actif, une grève industrielle, une petite industrie de Condé-sur-Noireau. Il joue un rôle actif comme médiateur entre le patronat et les ouvriers. Donc il s'engage pour la première fois, chose très inattendue, dans sa vie. Pendant qu'il est à Condé-sur-Noireau, cette date est très importante dans sa vie. Le 8 juin 1893, il est au bénéfice d'une sorte de vision qui est une illumination intérieure. Ce n'est pas une vision où il voit quelque chose extérieurement, mais où il voit quelque chose intérieurement. Il y est revenu à plusieurs reprises et dans ses souvenirs qui s'appellent « Après la journée », publié à l'époque chez Grasset, il écrit ceci, « Le 8 juin 1893, pendant que je priais, le Christ me fut révélé spirituellement dans la plénitude salvatrice de sa personnalité. Cette expérience morale et religieuse n'offrit pas le moindre caractère de phénomène audible ou optique. La conviction intime ne fut pas un seul instant concrétisée en manifestation extérieure et en apparition. Mais je compris avec intensité que les cadres de la religion étaient trop resserrés pour contenir le héros des évangiles. Le Fils de l'homme appartenait simultanément à tous les domaines de l'humanité qui prie, pense et agit. Il tenait la clé de tous les problèmes concrets qui se posent, politiques et sociaux, moraux et philosophiques. » Vous voyez, c'est assez extraordinaire cette illumination intérieure de ce jour-là. Bon, on découvre une pensée religieuse et chrétienne centrée sur la figure de Jésus, ça c'est très spécifique, c'est Wilfred Monod. On découvre son besoin, cette nécessité de dépasser le religieux, quand on parle de l'évangile et de Jésus, et on découvre cette nécessité d'un christianisme social, d'un Christ qui doit régner sur toutes les dimensions de l'existence. Ça, c'est sa première paroisse. Sa deuxième paroisse, c'est Rouen, 1898-1907. Et pendant qu'il est dans cette paroisse, il écrit et publie deux thèses de doctorat en théologie. Il y avait deux thèses à l'époque, précédées d'ailleurs par une dissertation en latin de 20 ou 30 pages. À l'époque, on savait le latin. Mon père parlait encore le latin comme le français. Ça s'est perdu très vite, le latin, la connaissance du latin dans la société culturelle d'expression française. Et ces thèses ont un titre très intéressant, l'espérance chrétienne, avec pour la première le sous-titre « Le roi » et pour la deuxième le sous-titre « Le royaume ». Alors c'est important de signaler cela parce que ça veut dire qu'il concentre son attention sur le thème du royaume et du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la grande réalité un peu insaisissable, multiforme, qui désigne pour les chrétiens sociaux le combat que nous devons mener en faveur de la justice. C'est un combat inscrit dans le royaume de Dieu, annoncé à la fois par Jésus et par les prophètes. Ensuite, il est pasteur à l'oratoire, à partir de 1907 jusqu'en 1938, et simultanément, il est nommé en 1909 à la faculté de théologie protestante de Paris, dans le poste que j'ai occupé et que occupe aujourd'hui, par exemple, Raphaël Picot. Il est nommé professeur de théologie pratique. Le 12 août 1915, pendant cette période, il s'inscrit au Parti socialiste pour l'anniversaire de l'assassinat de Jaurès et en hommage à sa mémoire. Il est obligé d'ailleurs d'écrire une lettre à ses paroissiens qui est très belle, très intéressante, qui sont surpris de voir un pasteur s'inscrire dans ce parti. Je précise qu'à l'époque, le Parti communiste n'existe pas encore. Ça veut dire qu'il est inscrit dans le seul parti révolutionnaire de l'époque. Aujourd'hui, s'inscrit au Parti socialiste, à la limite, pour un pasteur, c'est rien du tout. Mais à l'époque, c'était assez extraordinaire. Il crée deux réalités pendant qu'il est pasteur à l'oratoire. Je ne vais pas vous donner les dates, mais deux réalités qui sont très significatives. Il crée un tiers ordre protestant, comme il l'appelle, une espèce de communauté de laïcs qui s'engagent dans une vie spirituelle et sociale, et ça s'appelle les veilleurs. J'espère que vous connaissez cet ordre qui existe toujours aujourd'hui, hein, les veilleurs, et ça c'est la création de Wilfred Monod. Mais en même temps, il crée dans le centre un centre social dans le quartier des Halles à Paris, qui était un quartier très déshérité, qui n'a rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui, et qui s'appelle la Clairière. Donc un centre social au plein quartier des Halles. La Clairière vit toujours aujourd'hui, elle fait surtout de l'alphabétisation, et elle s'occupe des toxicomanes dans ce quartier tout proche de Beaubourg. Donc c'est... Je dis ces deux réalités, pourquoi ? Parce qu'elles survivent aujourd'hui, ces deux réalités. Les veilleurs, ça existe toujours. La clairière, ça existe toujours. Et les veilleurs et la clairière dessinent tout le projet de Wilfred Monod, mieux que des phrases que je vous ferai ou des théories. Christianisme spirituel, les veilleurs, une communauté de spiritualité et de prière, les veilleurs, très exigeante, à midi, on dit les béatitudes, à 8h du matin, on fait ceci et cela. C'est toute une vie de prière qui est structurée. Il est d'origine plus ou moins méthodiste, hein, Wilfred Monod. Et en même temps, il y a cette dimension sociale, la clairière, vous voyez, les deux bouts de la chaîne, christianisme spirituel et christianisme social. C'est exactement ça, son combat. Il va participer en 1925 à la grande conférence écuménique, une des premières grandes conférences écuméniques, qui s'appelle « Vie et action ». Et j'insiste là-dessus, l'écuménisme et le christianisme social, à l'époque, c'est un seul et même combat. Alors on a de la peine à imaginer ça aujourd'hui. Parce que, et c'est lui qui va rédiger le message final de cette grande conférence écuménique que toutes les obédiences chrétiennes rejoignent, sauf les catholiques, c'est international, hein, cette conférence, l'écuménisme et le christianisme sont un seul et même combat, parce qu'on dit les croyances divisent, les dogmes divisent, les doctrines divisent, mais les actions sociales peuvent nous rassembler tous, quelles que soient nos doctrines, quelle que soit notre confession et même quelle que soit notre religion. Alors vous voyez, il va être un témoin d'un christianisme social et de l'écuménisme, et il dépasse le jeu de son éducation religieuse, l'individualisme protestant, dans deux directions, l'écuménisme, le « nous hein, » de l'écuménisme, et le christianisme social, le « nous » d'une solidarité sociale. Il mourra en 1943 au Diaconès, l'hôpital des Diaconès. Je signale un petit point qui est quand même intéressant peut-être, c'est que on a les manuscrits de Wilfred Monod déposés à la Société de l'Histoire du Protestantisme Français, rue des Saints-Pères. Vous connaissez probablement cette bibliothèque. Et il y a 82 cartons, hein, une tonne de manuscrits. Et parmi ces manuscrits, il y a ses cours de faculté, il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi des registres dans lesquels il écrivait heure par heure ce qu'il faisait chaque jour. On pourrait faire une biographie de Wilfred Monod heure par heure. Ça paraît incroyable. Ce serait intéressant, une fois que quelqu'un s'y plonge, pour voir quelle était la vie d'un pasteur autour des années 1900. Qu'est-ce qu'il faisait ? Et dans ces registres que j'ai lus soigneusement, je voyais toujours annoncer entre autres des baptêmes, des bénédictions nuptiales, etc. Jamais d'enterrement. Pas enterrement, jamais service funèbre. Il m'a fallu du temps pour découvrir qu'il désignait toujours les enterrements par l'appellation « proclamation de la vie ». Et non pas enterrement. Ça, c'est beau quand même. Alors, qu'a-t-il publié ? Il a publié beaucoup, beaucoup. Hein. Il a publié environ 60 livres, dont certains ont des proportions océaniques, d'ailleurs. On a l'impression que même si on devait simplement recopier son œuvre à la main, notre vie n'y suffirait pas. Et dans ces 60 livres, il y a environ 400 à 500 prédications publiées. Ça veut dire le soin qu'il portait à sa prédication, puisqu'il pouvait les publier. D'ailleurs, les gens s'abonnaient. Il avait un tel retentissement dans sa prédication que plusieurs livres, la moitié de ses œuvres publiées, sont des sermonnaires, des recueils de sermons. Mais on a d'autres livres, on a environ 150 articles de revues. Enfin, un travail considérable. Il y a 5 recueils de catéchisme. Et puis, il y a un livre gigantesque qui s'appelle... Le problème du bien. Alors ça, c'est en 3 tomes, mais ça a des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers de pages. Et le problème du bien, c'est un titre intéressant, parce que son grand problème, c'est le problème du mal, hein, comme on va le voir. Et il dit le problème du bien, parce que les athées, les incroyants, les douteurs, les agnostiques, les libres penseurs nous interrogent toujours en disant « Pourquoi le mal ?» Et lui, il leur répond « Eh bien, dites-moi, vous, pourquoi le bien ?» Donc c'est pour ça qu'il appelle son livre « Le problème du bien ». C'est pas idiot, hein. Pourquoi le bien ? Et son livre « Aux croyants et aux athées », dont nous allons parler dans un moment, est un reflet de ce débat autour du problème du mal. 3 ou 4 choses, 3 événements considérables l'ont marqué. Il a même connu à un certain moment une dépression à cause de cela. Pour poser cette question existentielle, pour lui, ce n'est pas une question théorique, hein, du problème du mal. Ces 3 événements sont les suivants. La catastrophe de Courrières. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est en 1906, à Courrières, une catastrophe dans une mine où 1200 ouvriers meurent. 1200, hein, pas 120. Et cette catastrophe date de 1906, l'année où il donne des conférences qu'il va recueillir dans ce livre aux croyants et aux athées. Il parle dans ce livre, entre autres, d'une autre catastrophe, c'est l'éruption volcanique de la Martinique. Vous en avez certainement entendu parler, du mont Pelé, où là, il y a 30 000 morts. Problème du mal. Pourquoi ? Et puis, un peu plus tard, mais il en parle aussi dans ce livre, une autre catastrophe, le tremblement de terre de Messine, en Sicile. Et ces 3 événements à portée universelle vont le frapper au point qu'il est profondément interpellé dans sa foi et sa foi en Dieu. Et il va publier comme ça des livres autour des questions et des interpellations qu'on lui adresse. Vous, pasteur, comment expliquez-vous le problème du mal ? Pourquoi de telles catastrophes et souffrances injustes ? Il va publier plusieurs livres autour de ces questions, donc aux croyants et aux athées, mais avant cela, la fin d'un christianisme, et non pas du christianisme, le titre est intéressant, ou encore, en 1903, peut-on rester chrétien ? Dans son débat avec l'athéisme, on peut dire que Wilfred Monod affirme un certain nombre de données qui gravitent autour, pour faire vite, je dirais, de la question de l'aliénation religieuse. Alors, qu'est-ce qu'il appelle l'aliénation religieuse ? Vous savez que c'est une expression qui remonte à Hegel et à Marx, via Feuerbach. L'aliénation religieuse, c'est pour lui un certain nombre de choses dont il me semble qu'il faut très soigneusement les repérer. Alors d'abord, je dirais, l'aliénation religieuse, c'est on ne peut pas réduire la piété au religieux. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit de cette illumination intérieure qu'il a eue. Et il dit même que cette réduction de notre foi, de notre religion, de notre piété au religieux, hein, c'est l'hérésie par excellence. L'hérésie par excellence, c'est pas ne pas croire que Dieu est Trinité, ne pas croire que Jésus est à la fois Dieu et homme, etc. L'hérésie par excellence, quand il lit l'Évangile, pour lui, et la Bible tout entière, c'est de réduire la piété au religieux, d'enfermer l'Évangile dans les églises et dans les sacristies. Une autre chose sur laquelle il insiste, et ça me semble très important de le signaler, c'est qu'il s'interroge sur la pertinence, ça va peut-être vous surprendre, de la séparation des églises et de l'État par la loi du 9 décembre 1905. C'est pas la loi séparation de l'église, comme on dit, hein. C'est toujours des églises. C'est à tort qu'on dit de l'église et de l'État, hein. La loi, c'est bien la séparation des églises et de l'État. Non pas qu'il ne soit pas pour cette séparation. Il voit bien le danger d'une église qui utilise l'État et d'un État qui utilise l'église quand ils sont associés. Mais il dit que cette séparation des églises et de l'État va faire entendre à beaucoup de gens ce qu'il ne faut pas entendre. À savoir justement, les chrétiens, occupez-vous du spirituel, du religieux et des églises, et l'État s'occupe du reste. Hein? Le danger, moi j'ai entendu un ministre de l'Intérieur en France, il n'y a pas si longtemps, dire « Calmez-vous, vous les chrétiens, ne vous occupez pas de ça, c'est, vous avez à vous occuper de vos églises. » Point. Hein? Donc c'est le danger qu'il exprime là, c'était Pasqua. Le danger qu'il exprime là est sans cesse renaissant. Hein? Alors quand il dit, je crois que c'est très important de le marquer aussi, « Christianisme spirituel et social », il veut dire c'est l'évangile intégral. Il dit on ne devrait pas parler de christianisme social. Il n'y a pas de christianisme total, il n'y a pas d'évangile intégralement reçu qui ne soit de toute façon l'un et l'autre, et ça commence déjà avec le Magnificat de Marie. Il y a aussi, je crois, à noter son refus de l'individualisme. Je vous l'ai dit, dans un dépassement en deux directions, l'écuménisme et le social. Et dans cette perspective, assez surprenant pour un réformé, une très grande importance accordée à la communion, à la scène, à cette scène. Parce qu'il dit, il n'y a pas seulement une communion mystico, je ne sais pas quoi, individualiste, avec Dieu, verticale, mais nous partageons notre pain. C'est-à-dire, nous devons multiplier les pains, les nourritures terrestres pour ceux qui souffrent de la faim dans ce monde. Participer à la scène sans mener ce combat d'une manière ou d'une autre, c'est ne pas y participer. Ça, c'est une idée fondamentale de Wilfred Monod. Et quand on célébrait la scène à l'oratoire, hein, la Sainte Cène, dans l'église de l'oratoire où il était pasteur, il faisait en même temps et à la même heure distribuer un repas dans le quartier des Halles pour bien montrer qu'on ne pouvait pas séparer le christianisme spirituel et le christianisme social. Alors, je pense que vous avez une idée là un petit peu, vous voyez comment se dessinent les choses. Dans ces prédications sans cesse, mais je ne vais pas vous le lire nécessairement, c'est très intéressant de voir, qu'il est obligé de se défendre, il est attaqué. Il est attaqué sans cesse par ses paroissiens qui lui reprochent de faire de la politique en chair, hein, d'aborder les questions sociales en chair, pour voir ce qu'est l'oratoire, hein. C'est pas la Maison Verte. Et moi je dis que si aujourd'hui on prêchait à l'oratoire une des prédications de Wilfred Monod en faveur du christianisme social, le pasteur serait immédiatement chassé de l'oratoire. Et pas seulement de l'oratoire. Ce serait même la même chose à Passy, ce serait la même chose à Neuilly, ce serait la même chose à Vincennes. Toutes les paroles. Elles ont une audace, un courage, mais on n'a jamais pu le coincer dans un sens. Parce qu'il a toujours maintenu christianisme spirituel et christianisme social. S'il n'avait été que social, que social, que social, on lui aurait dit ça ne va pas. Mais comme il était très exigeant du point de vue spirituel, et qu'il se ralliait à un certain méthodisme avec une vie de prière et de spiritualité très méthodiquement organisée jour après jour, heure après heure, semaine après semaine, il était à la limite sur ce plan-là, au moins irréprochable. Et on voit alors qu'il se défend, qu'il répond avec ce que je vous ai dit. Hein. Il dit pourquoi ça lui semble indispensable de proclamer, non pas un évangile spirituel et social, mais un évangile intégral. Dernier point de cette présentation, de cette présentation un peu parcellaire de Wilfred Monod, comment articule-t-il le rapport spiritualité-christianisme social ? Alors, il va dire un certain nombre de choses, il va définir à travers cinq ou six réalités Je crois qu'elles sont très valables encore aujourd'hui. Je vais vous les lire. C'est 6 réalités. Hein, les fondements d'un christianisme toujours à la fois spirituel et social d'après la Bible. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne cite pas trop des textes bibliques. Vous savez, dans la Bible, on peut tirer le pire parce qu'on en peut tirer le meilleur. Hein, ça, c'est certain. Vous pouvez tirer le pire de la Bible. Vous pouvez en tirer le meilleur. Quand on vous dit qu'Élie a tué, je crois, de ses propres mains, 400, je crois, prophètes de Baal, il devait être fatigué d'ailleurs au bout d'un moment. Voilà, on vous donne ça en exemple. C'est quand même pas, pour moi, c'est le pire, ça. Alors, les 6 réalités sont d'abord christianisme spirituel et social, fondement dans l'amour de Dieu et du prochain. L'amour de Dieu, notre Père qui est aux cieux, un christianisme spirituel, et puis le prochain, un amour tout à fait pratique. Deuxième réalité, le Père et les frères. Dire à Dieu Père, c'est supposer que nous sommes frères. Et il faut que nous le soyons, dans une solidarité réelle. Troisième point, notre Père et notre pain. Ça, c'est très important. Il montre que l'oraison dominicale a un plan qui est traditionnel chez les Juifs. On parle d'abord des requêtes concernant Dieu et ensuite des requêtes concernant l'être humain. C'est la même chose dans le Décalogue. Les devoirs envers Dieu, les devoirs envers les êtres humains. Et il dit les premières requêtes qui concernent Dieu commencent par notre Père et les premières requêtes qui concernent l'être humain commencent par notre pain. Et dans un sens, il trouve assez scandaleux qu'on appelle cette prière le Notre Père. Ben ça, c'est de l'aliénation religieuse. Tout de suite, on ne voit que le spirituel, on ne voit que le ciel, et on oublie le concret, le matériel, les nourritures terrestres et le pain. On dit Notre Père, mais le vrai titre devrait être « Nous allons dire ensemble Notre Père, Notre Pain ». C'est là que se joue la réalité de cette oraison dominicale. J'ai une formule que tous les étudiants connaissent, elle n'est pas de Wilfred Monod, elle est de moi. Joindre les mains, ce n'est pas se croiser les bras. Et joindre les mains, c'est rejoindre les autres. Hein? La fin du culte, ce n'est pas la fin du culte. C'est rejoindre les autres. Joindre les mains, c'est rejoindre les autres. Joindre les mains, ce n'est pas se croiser les bras. Quatrième réalité, la nature humaine et divine de Jésus. Alors, mettons le mot nature, guillemets, ça ne peut plus rien dire aujourd'hui. Hein? Cette divinité, cette humanité de Jésus nous montre qu'il nous faut réconcilier dans notre combat le spirituel et le pratique, le spirituel et le social. Aller de l'un à l'autre, elles sont en Jésus inséparables, ces deux dimensions divines et humaines. Cinquième point, il dit les chrétiens ont un credo et les hommes politiques ont un programme. Nous aussi, nous devons avoir un credo et un programme. Si notre credo ne correspond pas à un programme, il n'est pas un véritable credo. Et sixième point, dans son dialogue spirituel-social, il dit encore, nous avons un Messie et on a perdu le messianisme. Les marxistes, les communistes ont un messianisme, mais ils ont perdu le Messie. Il faut réconcilier le Messie et le messianisme. Alors, petite note en bas de page que je ne peux pas développer, une des grandes évolutions de ce christianisme social, quand on lit les textes de Monod et d'autres, hein, il y a Élie Gounel qui travaille avec lui, il y avait avant eux le pasteur Tommy Fallow, qui était dans la paroisse où tu étais toi-même pasteur, hein, Tommy Fallow. Il y a eu Charles Gide. Ah oui, une phrase Tommy Fallow, là. Il y a eu Charles Gide, c'est le frère du père d'André Gide, hein, qui était témoin d'un christianisme social. Bon. Alors, qu'est-ce que je voulais dire, là, moi?
C'est une note en bas de page?
Ah oui, note en bas de page, voilà. Cette note en bas de page, c'est la suivante. Mais je ne vais pas le développer ici. longtemps dans les combats sociaux qu'ont menés les chrétiens sociaux, ils ont cru qu'il suffisait de prêcher l'évangile pour changer la société. Voire la morale chrétienne, une morale chrétienne. Et très tôt, ils ont découvert, et ça aussi ça fait grincer les dents, que si on ne changeait pas des conditions économiques, si on ne passait pas par un combat politico-économique, on ne pourrait pas, avec le seul christianisme, changer le monde et la société. Il fallait donc entrer là, vous imaginez la question, hein, dans une perspective qui est quand même marquée par Karl Marx. Alors je le signale parce que c'est quand même un pan intéressant de ce travail, de cette recherche et de cette évolution. En conclusion, pour Wilfred Monod, il a dit, bon, le christianisme social est fondé dans un christianisme spirituel. C'est parce que je lis l'évangile, c'est parce que je crois au Dieu de Jésus-Christ que je suis amené à ce combat social. Mais il dit en même temps, si on mettait le couteau sur la gorge pour choisir entre le spirituel et le social, bien sûr, je choisis le social. Il l'a dit à plusieurs reprises. Il y a une parole très belle dans une prédication. En 1911, aux yeux de l'Éternel, à l'heure décisive des comptes à rendre, mieux vaudrait avoir vécu sans religion que d'avoir vécu sans amour. Mieux vaudrait avoir servi Jésus-Christ sans le nommer que d'avoir nommé Jésus-Christ sans le servir. C'est magnifique, ça, non? Alors, je passe maintenant, je pense que je peux le faire, à ma deuxième étape. Un peu la toile de fond sur laquelle se dessine tout ce combat d'un christianisme social. Alors, il faut rappeler deux ou trois choses. Il y a d'abord le maître à penser de Karl Marx du point de vue religieux, dont il a repris les idées sans véritablement les changer. Vous le savez peut-être qui c'est.
Feuerbach.
Oui, Feuerbach, Ludwig Feuerbach. Hein. Marx dépend, du point de vue spirituel et religieux, des livres, de l'œuvre, de la pensée de Ludwig Feuerbach. Hein. Après Hegel, il y a eu un courant idéaliste qui succède à Hegel, le grand philosophe, hein. Et puis il y a un courant plus matérialiste qui lui succède, et dans lequel, c'est ce qu'on appelle la gauche hegélienne, dans lequel se trouve Feuerbach. Feuerbach publie en 1841, un livre, Das Wesen des Christentums, l'essence du christianisme, dans lequel il montre de manière extrêmement intéressante que finalement Dieu, tel que nous le représentons, n'est jamais que la figure idéalisée de l'être humain. Nous projetons en Dieu ce qu'il nous faut récupérer en nous-mêmes. Et il dit, l'homme affirme en Dieu ce qu'il nie en lui-même. Dieu est juste, nous devrions être justes. Dieu est bon, nous devrions être bons. Dieu est ceci, nous devrions l'être. Chaque fois, il faut récupérer en nous ce qu'habilement nous projetons en Dieu pour nous dispenser de l'accomplir et de le réaliser nous-mêmes. Alors là, joindre les mains, c'est se croiser les bras, dans ce cas-là. Hein? On attend de Dieu la réalisation de l'homme alors qu'elle dépend de nous. Il faut récupérer cela en nous-mêmes. Il dit aussi l'homme pauvre possède un Dieu riche. L'homme s'appauvrit spirituellement, moralement, hein? Pour enrichir Dieu de toutes les qualités qui devraient être les nôtres. À la limite, Dieu est tout, l'homme n'est rien. Ça, c'est d'ailleurs très protestant, hein? Il parle, en citant très souvent Feuerbach, les réformateurs et plus particulièrement Luther. Hein. Je ne dis pas que Luther ou que les protestants ou que les chrétiens vont si loin que ça, mais il y a de cela parfois dans certaines fois chrétiennes. Hein. Dieu est tout et nous ne sommes rien devant lui. Eh bien non, nous devons retrouver en nous-mêmes cette force, cette volonté, cette dignité qu'on applique à Dieu et qui doivent redevenir les nôtres. Ça, c'est très marxiste. Et Marx va reprendre la formule « l'homme pauvre possède un Dieu riche », mais dans un sens, lui, simplement, il va dépasser cela, dans un sens tout à fait matérialiste, historique, économique. L'homme pauvre, les gens voués à la misère du monde, qui vivent un enfer sur cette terre, imagine un Dieu riche, c'est-à-dire un paradis merveilleux, où on leur donnera dans le ciel tout ce qu'ils n'ont pas eu sur cette terre, et surtout ne vous révoltez pas, parce que comme ça, vous l'aurez, cela, un jour. Hein? Donc, l'homme pauvre possède un Dieu riche. Il faut bien voir que Feuerbach le reprend dans un sens, que je dirais, psychologique. Hein? Mais l'homme pauvre possède un Dieu riche. Marx va le reprendre dans un sens économique. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Et on ne comprend rien à ce combat du christianisme social si on ne sait pas qu'eux, ils ont lu tout ça, les témoins du christianisme social. Ils connaissent ces textes. Et ils essayent de répondre aux critiques de l'athéisme marxiste ou communiste ou socialiste. Hein. Ils essayent de répondre pour dire, mais nous aussi, nous voulons effectivement un combat pour la dignité de l'être humain, pour être nous, hein, les témoins de cela.
Bonjour madame. Excusez-moi d'être en
retard. Ne vous excusez pas. Des textes incroyables. On ne peut pas imaginer que ces textes ont existé. Mais je pourrais en citer des dizaines. Je prends un texte de Montalembert, en 1848. Montalembert, c'est le chef du parti libéral catholique, un parti assez ouvert d'ailleurs aux questions sociales, sous Louis-Philippe, il est député en 48. Il défend la liberté religieuse et même de conscience, à une époque où ça ne venait à l'idée de personne de le faire. Et il fait un discours à l'Assemblée législative dans lequel il dit cela. Écoutez bien. Quel est le problème aujourd'hui ? C'est d'inspirer le respect de la propriété à ceux qui ne sont pas propriétaires. Or, je ne connais qu'une recette pour inspirer ce respect, pour faire croire à la propriété ceux qui ne sont pas propriétaires, c'est de leur faire croire en Dieu. Non pas au Dieu vague de l'éclectisme, de tel ou tel autre système, mais au Dieu du catéchisme, au Dieu qui a dicté le décalogue et qui punit éternellement les voleurs. Voilà la seule croyance réellement populaire qui puisse protéger efficacement la propriété. Un peu plus loin. Nous lui avons appris, au peuple, hein, à ne plus attendre, à ne plus mériter sa part dans le bonheur céleste, et il en résulte qu'il réclame le bonheur sur cette terre. Et il veut être heureux à nos dépens, remarquez-le bien, à la place de cette part des espérances du ciel que nous lui avons ôtée. Il demande une part dans notre patrimoine et la plus grosse. Oui, c'est ainsi que nous payons la rançon de son incrédulité. À l'Assemblée des députés. Il faut quand même savoir que c'était ça qu'on entendait de la part de chrétiens engagés. Toujours dans ce même discours. Il faut une religion au peuple. Vous le dites tous. Eh bien, quand on lui a ôté sa vieille religion, quand on lui a ôté sa foi au Dieu fait homme de l'Évangile, savez-vous ce qu'il y a substitué ? Il y a substitué la foi à l'homme fait Dieu du socialisme. La doctrine de l'Église tient en ces deux mots, s'abstenir et respecter. Elle dit aux pauvres, résigne-toi à la pauvreté et tu seras récompensé et dédommagé éternellement. Voilà, c'est ça que je dis la toile de fond. Il faut comprendre que le christianisme social, ses révoltes et ses combats, se déroule à partir de paroles comme celle-là et cette résignation à laquelle on invite les pauvres de cette terre, auquel on promet le paradis naturellement de l'au-delà, c'est cela qu'on peut principalement appeler l'aliénation religieuse. Maintenant, un dernier exemple, Pie IX. Alors le pape Pie IX, c'est celui qui est à l'origine du dogme de l'infaillibilité pontificale et du dogme de l'Immaculée Conception, dont les catholiques ne savent pas toujours eux-mêmes, qui ne concerne pas la naissance de Jésus, mais la naissance de Marie. Hein? Ce n'est pas la naissance virginale, l'Immaculée Conception. Pour que Jésus échappât au péché originel, il fallait bien que Marie y eût échappé. On s'est arrêté là et on dit, par rapport à la grand-mère de Jésus, hein, que Marie est née d'une immaculée conception. Donc, sans être touchée par le péché originel. Bon. Ça nous intéresse guère, vous me direz. Eh bien, ce pape Pie IX, quand même un pape considérable, dans une encyclique, Nostis et Nobis Com, le 8 décembre 1849. Je ne cite pas le pape pour faire de l'anticatholicisme primaire. Je cite le pape parce qu'il est le représentant quand même sur cette terre du christianisme en général. Hein. Et c'est comme cela, que ça nous plaise ou non. Mais je pourrais, j'ai là des discours de Necker, qui était protestant, qui sont encore pires peut-être que ceux du pape. Alors voilà ce que dit le pape. Que les pauvres surtout, dans une encyclique, hein, que les pauvres et les malheureux se souviennent de tout ce qu'ils doivent à la religion catholique. Elle garde vivante et intacte, elle prêche hautement la doctrine du Christ, et le Christ a déclaré qu'il regarderait comme fait à sa personne le bienfait aux pauvres et aux malheureux. Il a de plus annoncé d'avance et à tous le compte particulier qu'il demandera un jour du jugement sur les œuvres de miséricorde. De cet avertissement notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, il est résulté que la condition des pauvres et des malheureux est de beaucoup plus douce chez les nations catholiques que chez tous les autres. Au reste, que les pauvres se souviennent, d'après l'enseignement de Jésus-Christ lui-même, qu'ils ne doivent pas s'attrister de leurs conditions, car la pauvreté même leur a préparé pour le salut un chemin plus facile, pourvu toutefois qu'ils supportent patiemment leur indigence et qu'ils soient pauvres non seulement en réalité, mais encore en esprit. Voilà, donc, on est dans ce climat-là, vous comprenez, quand le christianisme social vit, combat, et 1849, hein, cette encyclique, c'est important, parce que qu'est-ce qui est paru en 1848 ?
Les 18 Brumaires.
Pardon ?
Les 18 Brumaires de Louis-Napoléon Bonaparte, de Marx.
Non ? Oui, non, c'est autre chose. Un livre qui est paru.
L'Italie.
Non. Le manifeste du Parti communiste. Hein. C'est Engels et Marx. 1848. En 1849, voilà ce que dit le pape. Il faut se replacer dans ces contextes hein, quand on parle du christianisme social. Sinon, on ne voit pas l'arrière-fond de tout cela. Alors, je ne vais pas citer d'autres textes. Vous connaissez, je suppose, de Marx, le très beau texte, un peu ambigu et complexe, où il dit à la fois la beauté, la vérité de la religion et le mal et le côté terrible de la religion, et où il écrit la religion à l'opium du peuple. Hein. On drogue le peuple pour qu'il supporte sa condition, qu'il ne se révolte pas en lui promettant des paradis artificiels. Hein. La religion est l'opium du peuple. C'est dans ce contexte-là que se situe naturellement le combat du christianisme social. Alors maintenant, c'est ma troisième étape. Que va dire Wilfred Monod dans son livre aux croyants et aux athées? Comment il va dialoguer avec les athées et les croyants, hein? Il ne dialogue pas qu'avec les athées. Je pointe ici, j'ai relu le livre pour vous, et j'ai dû prendre d'abondantes notes. Je pointe six éléments. C'est un livre assez extraordinaire. Donc, c'est les quatre conférences qui sont réunies dans ce livre, qui paraît en 1906, hein, et qui va être sans cesse réédité. N'oubliez pas que ce livre est fortement marqué par les catastrophes dont je vous ai parlé. Hein. Courrière, la Martinique et Messine plus tard. Mais il en parle à la fin de son livre. Ces conférences n'ont pas exactement toutes la même date. Hein. Le premier point, il dit qu'il faut distinguer la foi et les croyances. Vivre sa foi, avoir la foi, comme on dit, ce n'est pas du tout signer un credo. On peut très bien signer un credo et ne pas vivre selon l'Évangile. Les pratiquants ne sont pas ceux qui vont le dimanche à l'église, comme disent les sociologues, les historiens, les enquêtes. Il y a tant de pratiquants en France. On compte les gens qui vont à la messe ou à des célébrations religieuses. Non. Les pratiquants sont ceux qui mettent l'Évangile en pratique. faut distinguer la foi et les croyances. Et la foi, c'est vivre de cet évangile, de l'exemple de Jésus-Christ, et mettre en pratique cet évangile. On peut très bien croire que Dieu existe, ça c'est une croyance, et ne pas croire en lui. C'est-à-dire ne pas vivre selon l'évangile. De même qu'on peut croire en Dieu et se poser toujours la question, est-ce qu'il existe ? Je pense que c'est notre cas à tous quand même. Donc il faut distinguer la foi et les croyances. Donc il s'attaque, c'est le premier point dans ce dialogue avec les athées, à certains dogmes, à certaines doctrines, au dogmatisme qu'on impose aux gens en leur disant si vous ne souscrivez pas à telle ou telle doctrine, si vous ne souscrivez pas à telle ou telle croyance, si vous ne souscrivez pas à tel ou tel dogme, vous n'êtes pas chrétien. Et lui dit ce n'est pas ça, ce n'est pas la vérité. Il faut distinguer croire que et croire en. Et là, il utilise un mot, il ne dit pas tellement dogmatisme encore qu'ils le disent parfois, il dit, il veut élargir, pas que les dogmes, mais toutes les doctrines. Hein. Il parle du doctrinarisme. Il vient dire aux athées et aux croyants, maintenant, posons-nous des questions sur notre manière d'imposer des doctrines chrétiennes. Jésus, dit-il, n'imposait pas des dogmes, il disait, suivez-moi. C'est quand même autre chose. La deuxième chose, naturellement, c'est qu'il essaye de changer notre vision de Dieu. Parce qu'il dit les athées ne s'opposent pas tellement à Dieu qu'à une certaine ou à certaines images de Dieu que malheureusement, nous avons trop souvent reprises à notre compte. Il s'oppose à une certaine conception de la divinité. Il faut un Dieu crédible. Alors, il va sans cesse, mais ça, pas beaucoup dans ces conférences-là, il le fera plus tard, il va sans cesse dire, nous devons avoir une image de Dieu crédible par rapport au progrès de la science. Ce qu'on peut encore dire Dieu, comme on le dit traditionnellement, si on prend au sérieux ce que les scientifiques nous apprennent sur le cosmos, sur l'univers, sur notre existence. Mais ça, il ne le dit pas beaucoup dans ce livre-là, hein. Mais il parle d'un Dieu crédible, parce qu'il dit, les athées, mais comme beaucoup d'entre nous croyants, nous ne parvenons pas à concilier la toute-puissance de Dieu avec la toute-bonté de Dieu. Comment un Dieu tout-puissant, dont on nous dit qu'il est amour, laisse-t-il faire de tels maux injustes, de telles souffrances injustes, de telles horreurs sur la terre? Ça, c'est ce qu'on appelle la théodicée, hein, le problème du mal. Si une divinité était responsable de l'état du monde, elle mériterait le mépris, écrit-il. Donc, il se dirige non pas vers l'idée que Dieu n'est pas amour, mais vers l'idée qu'il n'est pas tout puissant au sens où nous voulons l'entendre d'habitude. Dieu n'est pas tout puissant et à cet égard, il affirme trois choses. D'abord, il a besoin de nous. Il nous appelle au secours. Il nous appelle à l'aide. S'il était tout puissant, il n'aurait rien à faire de nous. Il nous appelle à l'aide et quand à Gethsémané, Jésus dit à ses disciples, « Veillez avec moi », si vraiment nous croyons que Dieu parle à travers Jésus, c'est Dieu qui nous dit « Veillez avec moi ». Deuxième chose, la croix, dit-il, est-elle le signe de la toute-puissance de Dieu ou de sa faiblesse? Alors ça, on le retrouve chez Berdiaev, on le retrouve chez Bonnefer, vous le connaissez peut-être, ce Bonnefer, mais Wilfred Monod, avant Bonnefer, dit cela sans cesse. Hein. La crèche et la croix, finalement taillées dans le même bois, sont-elles des signes de la toute-puissance de Dieu ou de sa faiblesse? Troisièmement, ça c'est une idée qu'il va développer de plus en plus et que j'aimerais longuement développer avec vous, mais je n'ai pas le temps de le faire. Dieu n'est pas encore totalement réalisé. Dieu est en devenir. Dieu, c'est l'avenir de Dieu. Quand nous disons Dieu est tout-puissant, c'est le Dieu tel qu'il sera, tel que nous faisons en sorte qu'il soit. Dieu tout en tous. Mais il n'est pas encore tout en tous, il ne règne pas encore sur le monde tout entier. Le Dieu qui est devant nous, le Dieu qui vient, est un Dieu que défend donc Wilfred Monod. C'est une grande idée qu'on trouve dans toute une théologie américaine aujourd'hui, qui est la théologie du process. Hein. Dieu n'est pas, il devient. Je lis deux extraits de Wilfred Monod dans son fameux livre. À moins d'admettre que Dieu est déjà tout en tous, il faut bien avouer, d'après saint Paul même, que la manifestation suprême de Dieu est encore à venir. Dès lors, admettre que Dieu existe, ce n'est qu'un premier pas. Il faut aller plus loin, il faut vouloir que Dieu soit. Cette affirmation et cette attitude réunies constituent la foi en Dieu. Ailleurs, dans un autre texte, toujours de ces conférences, voilà ce qu'il dit. C'est assez saisissant. Je conçois qu'on puisse parfois critiquer le christianisme avec d'autant plus de vigueur qu'on affirme avec plus d'énergie la souveraineté de Dieu. Mais j'entends encore la réplique. Un libre penseur dira, non seulement nous sommes anticléricaux, non seulement nous sommes antichrétiens, mais nous sommes antidéistes contre Dieu. Soit, moi aussi je le suis. Quand on me présente une divinité absurde ou immorale, quand j'examine les diverses religions du monde, je découvre des dieux à l'égard desquels je me déclare formellement athée. Il y a dans les religions, y compris le christianisme, de telles images de Dieu que nous ne pouvons être que les athées de ces dieux-là et de ce Dieu-là. Je rejette le Dieu des chrétiens quand on le représente comme un implacable bourreau, torturant indéfiniment ses créatures dans les flammes du purgatoire et n'abrégeant le supplice que pour les âmes des riches, des rentiers, qui par testament ont déposé une somme rondelette chez quelques notaires pour faire dire des messes après leur mort. À l'égard de toutes ces divinités-là, je suis athée. Voilà qui est clair. Ça, c'est le deuxième point. Il faut changer notre image de Dieu. Dans nos catéchismes, dans nos enseignements, dans nos prédications, dans nos recueils de théologie. Troisièmement, il donne sans cesse l'exemple de Jésus. Et il dit, ce Jésus, les chrétiens n'ont pas le droit de le monopoliser et de l'enfermer dans les églises, et de l'enfermer dans les sacristies. Vous ne croyez pas en Dieu. Je peux le comprendre, dit-il, mais croyez au moins en Jésus et prenez-le en exemple. Alors, je lis là aussi quelques citations qui me semblent extrêmement intéressantes. De Jésus. Il n'est plus dans les sacristies où on l'adore. Il n'est pas encore dans les bourses du travail où on le blasphème. Méconnu de ses amis et de ses ennemis, le Fils de l'homme erre ici-bas sans avoir un lieu où reposer sa tête. Autre citation. Où il situe donc Jésus dans la lignée des prophètes. Ce que Luther était à l'égard de Léon X, ce que Tolstoï est à l'égard du Saint-Synode, Jésus le fut à l'égard de Caïphe. Il fut l'homme de la liberté, de la justice, de la vie, de l'humanité, l'homme de Dieu en un mot, contre le pontife ecclésiastique, le prêtre ritualiste, le hiérarque doctrinaire. Il fut l'avenir, luttant contre le passé, l'amour qui innove, dressé contre l'égoïsme conservateur, et cela est si vrai que les socialistes ont édité parmi leurs brochures de propagande révolutionnaire l'Évangile selon saint Matthieu. Il a souvent voulu dire, en fait, que les athées ne nous reprochent pas d'être chrétiens. Du tout. Ils nous reprochent de n'être pas vraiment chrétiens. Ça qu'on nous reproche. Je vais encore citer un texte, là, pour Jésus. Il est impossible de retrouver le fleuve des évangiles dans les canaux du ritualisme ecclésiastique. La personne et l'œuvre de Jésus ne prennent pas leur puissant relief, leur vive couleur, à la lueur d'un quinquet de sacristie. Il faut le grand soleil de la place publique, à la ville ou au village. Quatrième chose, il faut essayer de vivre un évangile pour aujourd'hui, un évangile de solidarité. Et j'aimerais vous lire un texte assez surprenant et intéressant qu'il écrit à ce sujet-là. Prenez la parabole des deux fils. C'est la parabole de ceux auxquels Jésus, c'est-à-dire le maître de la vigne, demande d'aller travailler dans sa vigne. Il a deux fils. Un dit « je ne veux pas y aller » et il y va. Un autre dit « je veux y aller » et il n'y va pas. Vous connaissez cette parabole, elle est très intéressante. Prenez la parabole des deux fils. Je vais vous la raconter en style moderne. Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et lui dit « mon enfant va travailler à ma vigne ». Celui-ci répondit « j'y vais, Seigneur ». Et il n'y alla pas. C'est l'image de l'Église. Venant ensuite à l'autre fils, le père lui parle de même. Celui-là répondit « je ne veux pas ». Et plus tard, touché de repentir, il y alla. C'est l'image du socialisme. Lequel des deux a fait la volonté de son père ? Ils répondirent « c'est le dernier ». Et Jésus ajouta « en vérité, je vous le dis, les anarchistes et les femmes de mauvaise vie vous devancent dans le royaume de Dieu. Karl Marx, en effet, est venu à vous dans la voie de la justice et vous ne l'avez pas cru. Les anarchistes et les femmes de mauvaise vie l'ont cru. Et vous, chrétiens conservateurs, vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas repentis, vous n'avez pas fini par le croire. »
C'est quelle page ?
94-95, c'est quand même pas mal. Hein. Vous imaginez quand il dit ça, quand il dit des trucs comme ça en chair ?
À l'oratoire ?
Oui. Alors ça, c'est des conférences. Hein. Mais il dit la même chose en chair. Vous imaginez. Mais l'oratoire était peut-être plus populaire qu'il ne l'est aujourd'hui. Hein. Faut bien aussi, les paroisses ne sont pas nécessairement à Paris, ni les quartiers, ce qu'ils ont été naguère. Hein. Il y a des quartiers riches d'aujourd'hui qui étaient des quartiers pauvres et inversement. Hein. Mais je crois que c'est quand même intéressant de voir ce qu'est pour lui l'Évangile aujourd'hui. C'est incroyable. Ensuite, cinquième point, les églises. Les églises. Alors là aussi, je crois que c'est intéressant de citer simplement ce qu'il dit au sujet des églises. Ça va quand même assez loin. C'est aux pages 113-114. Les églises, toutes les églises considérées du dehors, apparaissent parfois comme de respectables anachronismes ou de regrettables survivances. Intellectuellement, elles se cramponnent souvent à des formules et à des légendes qui prolongent le règne de la mythologie. Moralement, elles ont un idéal plus négatif que positif et leur obsédante préoccupation du passé, en les détournant de l'avenir, les rend impropres à diriger ou à façonner le présent. Enfin, socialement, au lieu d'être ce qu'elles étaient à l'origine, le point d'appui des opprimés, le rendez-vous de toutes les consciences insurgées, contre la tyrannie et contre l'iniquité, elles sont devenues à leur insu le rempart des privilégiés. De plus en plus, leurs fidèles se recrutent parmi les dirigeants et leur soutien parmi les possédants, tandis que les masses populaires s'éloignent d'elles avec une défiance insurmontable. Un peu plus loin. Dès lors, pour ceux qui ne pénètrent pas au-dessous des apparences, pour ceux qui ignorent tout ce que les églises recouvrent de vie intérieure, de sève spirituelle, de pur idéalisme, d'aspiration désintéressée, le christianisme œcuménique apparaît comme une puissance d'immobilisme ou de régression qu'il faut condamner en bloc. Mais est-on athée pour cela? Les forces antichrétiennes, du judaïsme ou de l'islamisme, sont-elles des forces athées? Rousseau, Voltaire étaient-ils athées? Tolstoï est-il athée? Etc., etc. Et puis, sixième et dernier point, j'aurais respecté le temps qui m'était imparti. Naturellement, c'est le problème de la prière. Je vous ai dit ma formule, joindre les mains, etc. On retrouve ça sous une autre manière chez lui. En tout cas, la prière ne doit pas être le lieu de la résignation. Et c'est souvent... La prière, c'est emblématique. Notre conception de la prière dit notre conception de l'évangile, du christianisme et de Dieu. Et Feuerbach, sans cesse, attaque la prière dans son essence du christianisme. Il dit, les croyants, c'est quoi? C'est des gens qui prient et qui attendent que Dieu fasse ce qu'eux devraient faire. Et il a une formule très intéressante. Il dit, il ne faut pas concevoir l'exaucement de la prière uniquement du côté de Dieu, attendre que Dieu nous exauce, mais c'est à nous d'exaucer Dieu. Nous exaucerons Dieu quand nous prions, de deux manières, parce que Dieu nous demande de prier, et monocroit à la force et à la vertu de la prière, mais parce que Dieu, en Jésus, nous demande de faire sa volonté. Donc, quand nous prions vraiment, nous accomplissons, nous devons accomplir la volonté de Dieu. Prier, c'est exaucer Dieu. C'est une formule qu'on retrouve chez lui, elle est très paradoxale, elle est très surprenante, elle est très intéressante quand même. Prier, c'est exaucer Dieu. Voilà, je m'arrête là pour ces quelques mots autour de Wilfred Monod.